Ça fait 20 ans qu'on nous explique. La lutte de classe s'est dépassée. Qu'au nom de la guerre économique, pauvres et riches doivent collaborer. La droite, la gauche capitaliste ont ouvert la voie aux fascistes. Alors ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Qui peut rêver du RMI, même si certains estiment que c'est bien trop, que ça suffit. Que celui qui n'a pas d'emploi n'a qu'à se contenter de ça.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime lorsque personne n'intervient, que la peur hante tes voisins, t'encaisses les coups dans ta cuisine. Des gosses dans la cage d'escalier, au moins ils te voient pas pleurer.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La gauche, la droite avaient promis, tu les as cru, ils t'ont trahi, maillon faible qu'on élimine. Au bistrot, tu rêves de vengeance, tu bois contre l'indifférence.
Ne te trompe pas de colère, et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime, quand tous les jours à la télé, patron se bavane et frime disant qu'il faut se résigner. Faut sacrifier pour l'entreprise, car à la bourse c'est la crise.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Quand même avec ses airs de fête, la grève se transforme en défaite et la précarité te guette. Et quand tu veux manifester, les flics protègent les beaux quartiers.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. Mais pense à ton copain Karim, avec qui tu te fends la gueule, celui dont tu dis que c'est le seul. Qu'avec lui ce n'est pas pareil, que ce mec-là c'est une merveille.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre, oui, méfie-toi des milliardaires.
Ta colère est légitime. La ville est à terroriser, dans ton esprit sont mélangés New York, Nanterre, la Palestine. En confondant peur et courage, dans l'isoloir tu te soulages.
Ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Avec ou sans œil de verre,
c'est pas un
bourse pour le
Front National. Va-t'en de politique,
pas question de se laisser faire.
Michel est
avant-guerre. Elle est mauvaise conseillère.
Avec ou sans œil de verre,
n'oublie pas d'être solidaire. Pour un monde égalitaire,
ne te trompe pas de colère.
Berlusconi, Le Pen, Attal, Haider et Blair.
Et Bush, c'est pas un milliardaire.
Chirac, un bon homme d'affaires.
Oui, mais qu'il faut des
milliardaires dans les affaires.
Et t'as voté pour lui?
Ne te trompe pas de colère.
Je suis parisienne.
Ben non, moi je suis lycéenne. Et je peux rejoindre les révolutionnaires, les travailleurs.
Ouais, ouais,
c'est un peu prolétaire.
Guten Morgen Hamburg, guten Morgen Loic. Ihr hört wieder die Soli-Sendung mit den Angeklagten im Elbschusssee-Prozess, von denen Loic ja als einziger immer noch in Haft ist, nachdem er von den Korps nach Hamburg verschleppt wurde und hier mit vier anderen aus dem Raum Frankfurt-Offenbach angeklagt ist. Das Verfahren ist ja, wie alle mitbekommen haben, nicht öffentlich. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen, um die Soli-Bewegung zu schwächen. Das lassen wir uns natürlich nicht bieten und schicken Power durch die Mauer an jedem Prozesstag von 7 bis 8 Uhr hier auf FSK 93,0. Heute haben wir eine Sendung vorbereitet, einiges an Musik, aber auch verschiedenste Beiträge, heute alle auf Französisch, der ersten Sprache von Loïc, der ja aus Frankreich nach Hamburg verschleppt wurde. Ja, good morning Loïc, we sent you a lot of power through the walls and we have different stuff today for you, everything in French language, so yeah, and some music. I hope you enjoy the next hour of the show and you'll hear us again on the next day of your trial. I hope to see you outside of prison soon and we send you a lot of hugs and love and everything.
nous ont lynché. La curiosité tropicale à la verticale par les cervicales. Ils ont lynché la curiosité tropicale et sa fin fut sans appel et radicale, sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale, on balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale? Mais au fond, quels sont les motifs de ces coupelles? Mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ces séquelles? Mais enfin, dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle. La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête. Essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes. Et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la.
Des expressions telles que le tout, la totalité, communauté même, sont teintées de nuances menaçantes pour une génération qui a connu le fascisme et d'autres idéologies totalitaires. Ces mots évoquent l'image d'une totalité, atteinte au moyen de l'homogénéisation, de la standardisation et d'une coordination répressive des êtres humains. Ces craintes sont renforcées par l'idée d'une totalité qui semble donner à l'histoire une finalité inexorable, laquelle suppose une conception suprahumaine, étroitement téléologique des lois de la société, et refuse à la volonté humaine et au choix individuel la possibilité d'influencer le cours des événements sociaux. Pareille notion des lois de la société et de la téléologie ont servi à mettre l'individu sous le joug implacable de forces suprahumaines, échappant au contrôle humain. Notre siècle souffre d'une pléthore d'idéologies totalitaires qui, en mettant les hommes au service de l'histoire, leur interdisent de jouer un rôle quelconque au service de leur propre humanité. Une telle conception totalitaire du tout s'oppose de façon très nette à ce que les écologistes entendent par là. Au-delà de ce que nous entendons comme une conscience plus aiguë des formes et des structures, nous en arrivons maintenant à un important principe de l'écologie. La totalité écologique n'est pas une homogénéité immuable. Il s'agirait bien plutôt du contraire, d'une dynamique de l'unité dans la diversité. Équilibre et harmonie sont atteints dans la nature par la différenciation constante, par une diversité toujours croissante. La stabilité écologique n'est pas fonction de la simplicité et de l'homogénéité, mais de la complexité et de la variété. La capacité d'un écosystème à maintenir son intégrité ne dépend pas de l'uniformité du milieu, mais bien de sa diversité. Un exemple frappant de ce principe nous est offert par l'expérience des différentes stratégies écologiques en matière de culture vivrière. Les agriculteurs ont à maintes reprises fait l'expérience de résultats désastreux, dus à cette conception classique de l'agriculture, qui donne la priorité à un seul type de récolte. Autrement dit, la monoculture, pour reprendre un mot qui a fait fortune et qui désigne ces immenses champs de blé, de maïs, qui s'étendent à perte de vue dans de nombreuses régions du monde. Il est notoire qu'en l'absence de cultures croisées, lesquelles fournissent à la fois les éléments compensatoires et l'appui mutuel caractéristique des mélanges de populations animales et végétales, la situation agricole d'une région se détériore. Des insectes inoffensifs deviennent des fléaux, leurs barrières naturelles qui comprenaient oiseaux et petits mammifères ayant été levées. Le sol, qui ne contient plus en quantité suffisante les vers, les bactéries pouvant fixer l'azote, les engrais végétaux, n'est bientôt plus que du sable, support minéral qui absorbera d'énormes quantités de sels azotés inorganiques, dont la distribution était auparavant assurée par cycle et selon des rythmes mieux adaptés à la croissance des cultures à l'intérieur de chaque écosystème. Au mépris le plus total de la complexité de la nature et des subtiles nécessités de la vie animale et végétale, les conditions matérielles de l'agriculture sont grossièrement simplifiées. Il faut maintenant, pour en satisfaire les besoins, employer des fertilisants synthétiques très solubles qui infiltreront dans l'eau potable et de dangereux pesticides qui laisseront des résidus dans les aliments. Le haut niveau de qualité que la diversité des cultures et des animaux avait autrefois permis d'atteindre, dans des récoltes vivrières dont la valeur nutritive était probablement supérieure et d'où étaient absents les agents toxiques persistants, est maintenant à peine approché par les monocultures, qui reposent sur des substances chimiques toxiques et des éléments nutritifs grandement simplifiés. Si l'on considère que la poussée de l'évolution a bien été dans le sens d'une diversité croissante, que la colonisation de la planète par la vie n'a été possible que comme effet de la variété biotique, un sage réexamen des prétentions humaines devrait nous inciter à la prudence lorsqu'il s'agit de bouleverser les processus naturels. Que les êtres vivants émergeant il y a des millions d'années de leurs habitats aquatiques primordiaux pour aller coloniser jusqu'aux régions les plus inhospitalières de la Terre et pu créer la riche biosphère qui la recouvre actuellement, cela n'a été possible qu'en raison de l'incroyable faculté d'adaptation de la vie et de l'immense héritage de formes accumulées au cours de son long développement. Beaucoup de ces formes, même les plus simples et les plus primitives, n'ont jamais disparu, si grande qu'ait pu être leur modification au cours de l'évolution. Les formes simples d'algues et d'invertébrés qui caractérisent les commencements des règnes végétal et animal existent toujours en grand nombre. Elles représentent les conditions préalables à l'existence d'organismes plus complexes, auxquels elles fournissent la subsistance, des mécanismes de décomposition et jusqu'à l'oxygène et au gaz carbonique de l'atmosphère. Précédant de plus d'un milliard d'années les plantes et mammifères supérieurs, elles n'en maintiennent pas moins des relations avec leurs descendants plus complexes au sein d'écosystèmes souvent impossibles à démêler. S'imaginer que la science maîtrise dans ses moindres détails ce vaste ensemble d'interactions organiques et inorganiques est bien pire que de l'arrogance, c'est de la bêtise, ni plus ni moins. Si l'unité dans la diversité est l'un des principes fondamentaux de l'écologie, l'inépuisable richesse de la flore et de la faune contenue dans un arpent de terre nous amène à un autre postulat écologique de base, la nécessité de laisser à la nature une grande marge de spontanéité. L'impératif catégorique du respect de la nature a des conséquences concrètes. Ce serait pure folie de croire que notre connaissance de ce kaléidoscope de forme qu'est la vie, si complexe, si richement et finement construit, et perpétuellement renouvelé, puisse aboutir à une maîtrise si grande que nous aurions le champ libre pour manipuler la biosphère. Il faut donc laisser à la spontanéité de la nature une part considérable de jeu, afin qu'agissent les multiples forces biologiques qui donnent naissance à une situation écologique diversifiée. Travailler avec la nature nous oblige à favoriser la variété biotique résultant du développement spontané des phénomènes naturels. Loin de moi l'idée que nous devrions nous en remettre à une nature mythique, inaccessible à la compréhension et à l'intervention humaine, une nature qui inspirerait aux hommes terreur et soumission. Comme le fait observer avec finesse Charles Elton, la conclusion la plus évidente que nous puissions tirer des deux principes écologiques en question est peut-être la suivante. Il est certes nécessaire de gérer l'avenir du monde, mais plutôt qu'une partie d'échec, c'est à la conduite d'un navire que cette tâche devrait être comparée. ce que nous pouvons espérer de l'écologie, celle de la nature comme celle de la société, c'est qu'elle nous apprenne à découvrir les courants et à comprendre leurs mouvements.
Bonjour tout le monde, bonjour Loïc. J'ai encore la chance de lire un texte en français. Je ne sais pas pourquoi moi, mais on verra. Pourquoi pas? Pour une violence sans but, les gilets jaunes exigent sans savoir quoi ou l'injonction à faire un compromis avec le pouvoir. Publié le 6 avril cette année. Il ne s'agit pas de disqualifier l'action politique orientée vers un but. La révolution qui propose des revendications concrètes, mais de penser autrement la violence. La violence n'est jamais orientée vers un but. Un mouvement si complexe et tel qu'on ne peut pas si simplement dire ils veulent le RIC ou ils veulent une 5e République, nous imposent de ne plus penser la violence par rapport à son but. La violence exprime un dégoût du capitalisme, pourrait on dire, et ne propose rien. L'idée selon laquelle le mouvement des Gilets jaunes, toujours pensé comme une entité ordonnée et unique, avait un début de revendication légitime qui se sont ensuite dessoutés dans une violence gratuite et devenue une constante répétée inlassablement dans les médias et par leurs spectateurs. Notez que l'expression « revendication légitime » est toujours elliptique. Les médias se contentent d'évoquer une légitimité sans jamais préciser, même allusivement, les contenus de ces revendications. Joli toujours de passé-passé qui dispense ces médias de s'interroger sur le fond politique du mouvement pour ne critiquer plus que sa forme. Autrement dit, il faut se méfier de tous ceux qui utilisent l'expression « revendication légitime ». Il s'agit souvent, mais pas toujours, de disqualifier le mouvement et d'éviter toute pensée proprement politique. Raphaël Enthoven est un maître de l'art. Ses maximes occultent d'autant plus la nécessité politique du mouvement qu'elles sont toujours formulées dans une langue intellectuelle et bourgeoise. La critique médiatique de la violence gratuite repose sur le présupposé que toute action est orientée vers un but représentable a priori, vers des revendications concrètes, et la légitimité de cette action est dès lors mesurée et jugée, non à sa cause, mais à son but. On alluse toujours la violence par rapport à son but, par rapport à ses revendications, au même titre que le désir sexuel serein orienté vers la reproduction. Conception occidentale que partage une partie de la gauche, notamment la gauche léniniste, l'avant-garde révolutionnaire qu'envisage Lénine serait avec avant-garde en cela qu'elle s'autoriserait a priori une représentation claire des buts à atteindre par la révolution, faisant de la révolution un moyen ordonné à ses buts. Essayons de penser une violence sans but, c'est-à-dire non une violence gratuite, parce qu'il y a des nécessités révolutionnaires qui relèvent de l'invivable, mais une violence qui ne propose pas, qui ne travestit pas son urgence dans le langage du droit, c'est-à-dire dans la langue du pouvoir. La violence ne propose pas. Elle exprime une colère, un dégoût, une détestation. Cela ne disqualifie ni ne contredit pas ceux à l'extrême gauche qui proposent des modèles de gouvernement. Il ne s'agit pas de dire que les violentes n'ont pas de revendications concrètes. Certains en ont. Il s'agit de dire que la violence n'est pas orientée vers ses revendications. Autrement dit, l'acte politique qui menace de distinguer le pouvoir et l'acte sans but, qu'on appellera violence. C'est à cette violence que l'intéressent les philosophes contemporains Giorgio Agamben, qui, dans La fin du Carmin et dans Moyens sans fin, après une analyse historique du primate métaphysique et occidental accordé à l'action ordonnée à un bout, développe une éthique du Geist. Pensez à la manière du Geist du danseur, dont la signification n'est pas à trouver du côté d'une quelconque but, mais la danse classique et la danse contemporaine du couple, le Geist politique est un moyen sans fin. Il y a peut-être quelque chose du Geist dans la grève générale prolétienne que Walter Benjamin, la critique de la violence, oppose à la grève qui s'exerce dans le cadre du droit et qui, en tant qu'elle s'exerce dans un cadre, est déjà l'acceptation d'un ordre des choses où cette grève aurait sa place, lui confisquant toute possibilité de contester cet ordre. Le véritable geste gréviste ne pourra être qu'une grève qui déborde le droit qu'on lui a accordé. Il en est de même pour la manifestation. Il y a la manifestation autorisée, institutionnalisée avec son parcours, ses revendications, et la manifestation sauvage, l'émeute. Le geste se joue hors de toute autorisation, il est toujours sauvage, là où toute revendication est déjà l'ordre de l'acceptation du monde dans lequel on est. Ainsi, le nombre collectif de 68 affirmant qu'il ne fallait pas revendiquer quoi que ce soit, soyez réaliste, demandez l'impossible. Ce geist pur refuse des règles du pouvoir est toujours insupportable pour les autorités. C'est sa puissance destituante. Au contraire, les manifestations pacifistes et autorisées, avec leur parcours et leurs revendications, sont toujours supportables, toujours confortables pour ceux qui, exerçant un pouvoir, par exemple un gouvernement, pas de négociation avec le pouvoir. L'acte politique, par opposition au vote, c'est quand des gens s'inventent et font effraction dans un jeu institutionnel déterminé par le pouvoir. C'est peut-être ça l'anarchisme. Refuser les règles du jeu, ne rien attendre du pouvoir, renoncer à l'idée que le pouvoir va octroyer quoi que ce soit, se l'octroyer. Grève, blocage, manif sauvage. Merci.
Que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustande à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Et que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va. Donc, honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie
Politia, politia, assassini Giotto, assassini anche
Politia. assassini, assassini,
polizia, polizia,
Giotto, assassini anche,
polizia,
assassini, assassini,
police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes, de rien n'est un jamais.
Père.
Et tout mon respect est baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise, facile d'avoir raison en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, au Tutti Bianchi, à tous les autres et sans nom, seul le groupé, les arrêter, les rescaper, car la flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler.
Polizia, polizia, Giotto, assassini anche,
polizia,
assassini, assassini,
polizia, polizia,
Giotto, assassini anche,
polizia,
assassini, assassini.
Maintenant après l'humiliation, courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne, donc c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste, et tous les retards du G8, honte à vous à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples, vous vous lavez.
Polizia, polizia, Giotto, assassini anche,
polizia,
assassini, assassini,
police, assassin, une mémoire pour leur décompte, au futur pour les victimes, que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle.
Giotto, assassini anche,
polizia,
assassini, assassini,
polizia, polizia,
Giotto, assassini anche,
polizia,
assassini, assassini,
gente di là.
Oui, je me suis vraiment demandé si les gens avaient tous compris. Voilà, mais tu peux donc y aller sur la répression.
Oui, et c'est la bonne nouvelle du jour, qui est une tiers de bonne nouvelle, dirons-nous, puisque l'article... je vous rappelle l'histoire, la réponse ultra-sécuritaire, ultra-liberticide du gouvernement aux débordements de violence qui ont lieu certains samedis dans les manifestations dites de Gilets jaunes. Ils ont, ce gouvernement liberticide de droite, voté une loi dite anti-casseurs le 12 mars dernier, et le Conseil constitutionnel aujourd'hui a censuré l'article 3. C'était le plus décrié. Il y en a trois d'articles qui étaient vraiment très liberticides et très pourris. L'article 3, c'était le plus décrié. Il a été donc censuré, c'est-à-dire qu'il ne passera pas dans la loi. Cet article 3 disait que l'autorité administrative, c'est-à-dire grosso modo l'État, c'est-à-dire le préfet, pouvait prononcer des interdictions de manifester à des citoyens sur l'ensemble du territoire national pendant un mois à l'encontre d'individus représentant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public avec 6 mois d'emprisonnement risqué et 7 500 euros d'amende. Ça avait pas mal fait réagir, même au sein de ce truc qu'on appelle La République En Marche. Et finalement, ça a été censuré. Alors, dans les faits, ils ont censuré parce qu'ils estiment que c'est contraire à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur la liberté d'expression et notamment sur le flou qui est entretenu par le législateur sur des personnes qui n'ont pas été condamnées mais qui auraient été, je sais pas, peut-être vues un peu dans les manifs, estimées dangereuses. Même sans condamnation et qui aurait pu être donc interdite de manif. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y avait deux autres articles. L'article 2 notamment, qui permet à la police de procéder des fouilles de bagages et de voitures en amont de manifestations. Ça, c'est resté validé. Alors ça, c'est pas le pire, parce que c'est pas non plus ultra liberticide. Le plus liberticide, c'était bien sûr les 1 an d'emprisonnement et les 15 000 euros d'amende sur le fait de dissimuler même partiellement son visage lors d'une manifestation. Ça, le Conseil constitutionnel, droit dans ses bottes, j'ai pas dit le bras tendu, mais c'est pas loin, a donc justifié et accepté ce truc qui est pourtant, qui ne semble pas très constitutionnel, mais bon, c'est eux qui sont les gardiens du temple, ou les gardiens de la constitution, hein. Donc on est obligé de les croire. Donc voilà. Alors c'est quand même un bon camouflet dans la gueule du gouvernement, puisqu'ils avaient récupéré cette loi issue de la droite dure, hein, des Républicains très exactement. Ils l'avaient mise quasiment telle quelle, voilà, en la récupérant, et bah, ils se sont fait voilà, censurer au moins un article, c'est déjà ça de gagné. Alors toujours sur la répression et la censure, une deuxième bonne nouvelle, et qui sera, quand elle sera effective, encore bien meilleure, c'est sur les lanceurs d'alerte. Bon, c'est les personnes, on rappelle, qui signalent des infractions ou des abus en matière de travail, de santé, de sûreté nucléaire, d'environnement, d'alimentaire, enfin tout ce qu'on peut connaître et imaginer et voir de nos jours. Jusqu'à maintenant, les législations dans les différents États membres de l'Union européenne sont très très disparates, et ça a poussé les Verts, donc le parti Vert, les écolos au niveau de l'Europe, à proposer à la Commission un projet de directive. Alors ça date de fin 2017. Il y a toute une histoire sur cette directive. C'était proposé au moment où l'inverse était voté au niveau de l'Europe, cette fameuse directive du secret des affaires, très défendue par la France et notamment par Macron, qui tend à protéger le capitalisme face aux citoyens. C'était ça le but de cette protection sur la directive sur le secret des affaires. Contre les citoyens et contre donc les lanceurs d'alerte. Du coup, ça avait une sorte de réaction comme ça, les élus verts et une large majorité de parlementaires du coup ont réagi. Derrière Virginie Rosière, hein, qui était apparentée socialiste, a proposé une loi de protection des lanceurs d'alerte. Donc ça, c'était 2017. En avril 2018, la commission proposait un projet de directive issu donc de ces parlementaires, validé en novembre dernier par la Commission des affaires juridiques du Parlement. Et là, est arrivée récemment la réunion à trois, ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire le Parlement, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne. C'était en février dernier. Ils ont validé cette directive. Donc c'est une bonne nouvelle, une directive qui augmente beaucoup et qui protège réellement les lanceurs d'alerte. D'abord, dans la définition même du lanceur d'alerte, qui est défini comme, je cite, « tout travailleur du secteur public ou privé, ou tout contractuel qui divulgue, ou tente de divulguer, ou est perçu comme divulguant, alors ça va très très loin, des informations d'intérêt public ou concernant une menace ou un préjudice à l'intérêt public dont il a pris connaissance dans le cadre de sa relation de travail. » Et c'est redéfini en dessous, « travailleur de point, toute personne employée par un employeur, y compris les stagiaires, les apprentis, les anciens employés. » Donc ça, le but de cette directive, c'est qu'elle encadre vraiment toutes les citoyennes et les citoyens qui ont quelque chose à dire et à dénoncer. Donc voilà, c'est quelque chose de très très bien. Alors, c'est pas aussi idéal que ce qu'avaient voulu les Verts, notamment, puisque la directive ne protège que les individus et pas les ONG. Il y avait l'idée aussi, à un moment, de protéger les ONG. Ça s'est pas passé. Mais bon, c'est déjà pas mal. La directive va plus loin encore aussi sur les représailles que pourraient subir en fait les lanceurs d'alerte de la part notamment de leur ancien employeur ou de leur employeur. Donc là, il y a une protection totale, donc avec la charge de la preuve retournée sur l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur dit non, mais je ne suis pas d'accord, je le vire parce qu'il a dit quelque chose qui est faux, il faut que l'employeur le démontre. Il ne peut pas avoir juste de la suspicion, ce qui fait une vraie, vraie protection du lanceur d'alerte. Enfin voilà, je ne vais pas lire toute la directive, tout ce qu'il y a dedans. Ça va être voté d'ici la prochaine session à Strasbourg, donc ça devrait être en avril, donc d'ici quelques semaines. Et les lanceurs d'alerte seront enfin protégés dans l'ensemble de l'Union européenne. Et on rappelle, dans les pays qui sont opposés à tout ça, il y a l'Allemagne et la France, parce que la France trouve que le projet de loi va trop loin. La France, portée par ce gouvernement de droite libérale, était plutôt du côté du secret des affaires, c'est-à-dire du côté des patrons, du patronat, du capitalisme, contre les citoyens et contre cette directive, mais ils n'ont pas été majoritaires, ils ont perdu. Et ben, ça nous fait plaisir qu'ils aient pris aujourd'hui une deuxième claque dans la gueule, tous ces libéraux.
Rebecca Lane. Wow, desde Guatemala, reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria, esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. ¿A quién conviene el orden que se mantiene? Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Y no voy a hacer arte nada más pa' complacerles. No voy a censurarme para no incomodarles. Vengo a contar mi historia, no a tener buenos modales. No vine a quedarle bien a nadie. No vine a hacer las paces, no me pongo disfraces. No vine a repetir las frases de organismos internacionales. No salgo a protestar para que la gente me vea y luego subir fotos pa' que crean en la calle hay pelea. Yo no elegí la guerra, pero nací guerrera y lo seré hasta en el día que me muera. Ni perdón ni olvido, aunque la llaga me duela, la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú. Reina del caos, reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista. Reina y señora del caos que me habita. A veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista.
Contribution non tenue à l'occasion de l'événement « Que veulent les anarchistes ?» le 9 février 2019 du compagnon anarchiste incarcéré en Suisse. Chers compagnons, à l'occasion de la discussion autour de la question « Que veulent les anarchistes ?», J'ai aussi envie de m'asseoir et de mettre sur papier quelques réflexions qui vous parviendront certainement avec un peu de retard, puisqu'ici, tout doit passer par la censure. Ne pas être en prison, c'est en quelque sorte la première chose qui me vient à l'esprit. Mais cela montre aussi clairement, tout comme les portes blindées devant moi, qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose. Sans les conditions qui permettent de saisir l'objet de la volonté dans la réalité et de le dépasser par l'action, cela reste la simple expression d'un désir semblable à celui de celles et ceux qui croient encore au Père Noël ou qui, ayant pris de l'âge, croient en une force objective influençant le monde et censée nous libérer un jour. Qu'on l'appelle Dieu, raison, dialectique ou progrès, rien de tel. Pour les anarchistes, ces principes abstraits représentent la même tromperie. Et peut-être avons-nous trop peu réfléchi au fait que chez les Grecs anciens, avant de devenir le synonyme de domination, arché désignait le principe premier à la base de tout. C'est à partir de cet élément religieux originel que s'est développée la justification de l'autorité et finalement du monstre de l'État. Ainsi, à défaut de Weltgeist, esprit ou âme du monde, comme l'appelait Hegel, ou du matérialisme dialectique dans la variante directe de Marx, il nous faut nous libérer nous-mêmes, et pour cela, il faut manifestement le vouloir. Mais la volonté peut aussi être une prison pour nous. Par exemple, à certains moments, dehors, les ignominies qui nous entourent m'ont fait me sentir plus prisonnier qu'ici, dedans. Ici, la volonté se voit nécessairement amenée à réduire son périmètre. Mais dehors, elle se heurte aussi à des murs, moins clairs et pour cette raison même plus perfides. C'est ces derniers que nous devons d'abord identifier et démolir, pierre par pierre, pour que les murs concrets des prisons puissent tomber un jour. C'est pourquoi je ne souhaite pas parler ici de la beauté de l'anarchie, de la pureté des principes anarchistes. Ce sont de nobles choses à propos desquelles nous pouvons renvoyer à un siècle entier de propagande anarchiste. Je veux diriger mon attention moins sur le problème du quoi que sur celui du vouloir. Nous ne pouvons vouloir que ce que d'une manière ou d'une autre nous comprenons et que nous pouvons donc nous représenter, même s'il s'agit de la plus étrange de toutes les utopies. Cela signifie que notre vouloir n'est absolument pas aussi libre que ce sur quoi s'est longtemps fondée une tradition volontariste de beaucoup d'anarchistes. Il dépend de notre imaginaire, de notre culture dans le sens large du terme. Ces derniers n'incluent pas seulement la tradition littéraire et la culture générale, mais aussi ce que nous mangeons et comment, la manière dont nous nous habillons, dont nous rapportons, dont nous communiquons, dont nous chérissons, bref, tous les aspects de la vie quotidienne. Dans une société qui est sur le point de faire rentrer tous ces aspects dans un cercle fermé administré par la technologie, le pouvoir se donne la possibilité de séparer toujours plus la culture de la réalité. Cela ne concerne pas seulement la masse majoritaire des exclus, administrés de manière passive, mais ceux-là même qui sont au poste d'administration. Dans ces gens, on peut dire que la technologie annexe progressivement l'État, les anciennes structures de domination politique et économique. Certains ont employé le concept de déréalisation dans une tentative encore incertaine de comprendre cette évolution englobant tout et qui requiert tous nos efforts. Il ne faut pas comprendre la technologie uniquement comme l'ensemble de ses appareils, mais avant tout comme un voile de forme et de contenu sans substance qui recouvre toujours la réalité en visant à la remplacer en tant que référence. Une fois ce cercle refermé de manière étanche, les contenus culturels, notre imaginaire, n'ouvriront plus aucun débouché d'action libératrice à notre volonté, ceci ayant au moins besoin d'un contact avec la substance réelle du pouvoir dans toute son ampleur et de l'exploitation. La volonté de se libérer se transforme dès lors en de simples ersatz ou replacements d'actions symboliques enfermées dans leur propre univers culturel de cadres de pensée et séparés. Les slogans et les symboles chargés, les bavardages et les rituels sévissent. Inutile de faire remarquer que les anarchistes sont aussi influencés par cette évolution. Et cela a peut-être à voir avec le fait que nous croyons trop avoir en poche la vérité ou le rosaire des principes, sans avoir besoin de nous atteler à approfondir les problèmes qui finalement posent constamment problème à l'agir dans la réalité. Les anarchistes ont une idée de la liberté qui ne se laisse ni diviser en gradation, Les anarchistes ont une idée de la liberté qui ne se laisse ni diviser en gradations ou en secteurs, ni enfermer dans des mots. Comme ils ne veulent ni une simple adaptation de la domination existante, ni l'avènement d'une nouvelle domination sous d'autres formes, ils doivent partir d'une vision globale. Notre pensée est obligée de saisir le monde dans des concepts et des situations séparées pour aider à orienter la compréhension. Cependant, le monde en tant que totalité, de même que l'idée de liberté, est unique et indivisible et ne trouve de place que dans notre cœur. Si l'affirmation de Bakounine ne serait pas compréhensible, selon laquelle nous ne pouvons être vraiment libres tant qu'un être humain est enchaîné dans le monde, aujourd'hui, plus que jamais, je pense que nous devons apprendre à ne pas faire attention qu'aux mots qui sont souvent trompeurs, mais plus au cœur, à ce qui résonne entre les mots. Si seuls les mots communiquent, la recherche de l'affinité finalement reste vaine. Un jour, quelqu'un a dit que celui qui a une tête d'âne ne peut soudainement découvrir en lui un cœur de lion. Il me semble qu'aujourd'hui, la seule issue pour la rébellion est de viser directement le cercle mentionné précédemment. Et pour cela, il nous faut aussi nous approprier les moyens culturels dont le pouvoir cherche à nous priver sur tous les plans. Un élément est certainement la connaissance sur l'objet de la volonté. Celles-ci pouvant néanmoins aussi se transformer en obstacle et perdre le contact avec la réalité lorsqu'elle a une prétention exclusive. Un autre élément encore plus important sont certaines qualités qui peuvent paraître fort peu modernes, mais qui sont la base pour le dépassement de la volonté vers l'action. En premier lieu, le courage, la détermination, mais aussi, et absolument pas en opposition, l'amour dans son fondement universel, l'ouverture aux autres, la sensibilité, la créativité. Le livre, qui jusqu'alors semblait être au centre de l'évolution culturelle, est sans doute un objet passé de mode, et avec raison dans sa prétention à enserrer le monde dans une couverture. Nous pouvons bien sûr vouloir l'envoyer au diable. Cependant, c'est un trésor quasiment inépuisable de stimulation devenue rare de nos jours qui pourrait nous échapper, comme occasion de réflexion provisoire d'approfondir et d'enraciner les éléments dont j'ai parlé. Pour conclure, je pense que les anarchistes veulent la transformation révolutionnaire de l'ordre étatique reposant sur la violence et se fondant tout au long de son histoire sur les guerres, l'exploitation et la misère de masse pour procurer des privilèges à un groupe dominant. Une transformation dans le sens d'une association sans État, décentralisée, auto-organisée, d'individus, de groupes, de communautés, etc. Pas tous, mais la plupart des gens sont d'avis que les conditions de production technologique actuelles sont incompatibles avec la perspective d'une autonomie en liberté. Les anarchistes veulent s'organiser spécifiquement en minorité révolutionnaire pour se battre à la première personne, ainsi qu'encourager à l'auto-organisation dans des luttes. En effet, seule cette dernière peut être la base d'une transformation révolutionnaire qui n'amène pas un nouveau groupe politique au pouvoir. Pas tous, mais la plupart pensent qu'une telle transformation ne peut être le résultat d'un grand soir ou d'un simple travail éducationniste, mais qu'elle peut s'accomplir par une longue et parfois douloureuse série de luttes intermédiaires et de tentatives insurrectionnelles des opprimés. C'est pourquoi ils et elles veulent comprendre les évolutions des réalités sociales et des conflits dans leur sens global, suffisamment pour s'impliquer, non pas comme un élément étranger, mais en y faisant des propositions et en y prenant des initiatives là où ils veulent voir un potentiel développement dans cette direction. Bien sûr, il se peut que je me trompe, mais c'est ce que je crois tirer de l'expérience du mouvement anarchiste et aussi ce que je pense personnellement. Je pense en outre que des modifications globales du pouvoir sont en cours, qui pourraient signifier notre perte sans que nous le remarquions si nous ne nous ouvrons pas à un renouvellement. Et le nouveau arrive toujours à travers de l'action. J'espère que cette soirée a donné lieu à une discussion vivante dans laquelle personne n'hésite à contredire et à confronter, non pas par volonté d'avoir raison, mais par la volonté de mieux comprendre pour mieux agir. En fin de compte, ayons-le toujours à l'esprit, ce n'est rien de moins que notre vie qui est en jeu. Il faut encore avoir du chaos en soi pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Friedrich Nietzsche, ainsi parla Zarathoustra. 8 février 2019, prison de Zurich.
Das war sie wieder, die Sendung, die Soli-Sendung mit den Angeklagten im Elbschusssee-Prozess. Das nächste Mal hier auf FSK 93,0 zu hören am nächsten Prozesstag von 7 bis 8 Uhr am Morgen. Wir wünschen Loic und den anderen einen guten Tag und schicken viel Kraft und Power durch die Mauer. Goodbye, Loic. You'll hear us again before your next trail. And we send you a lot of power through the walls. Bye.